pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est un patron comme on en voit au cinéma, écrit Le Figaro, qui rapporte cette histoire, sauf que ce n'est pas de la fiction justement, et que le patron existe dans la vraie vie. L'histoire se passe dans l'état d'Iowa, aux États-Unis. L'homme est à la tête d'une chaîne d'épiceries. En mars dernier, visiblement mécontent du travail de ses employés, il décide de lancer un jeu dont le principe est « deviner quel est le prochain caissier qui sera licencié ». Il remet aux salariés un mode d'emploi écrit du sympathique petit jeu. Je cite « Pour gagner notre jeu, écrivez donc sur un morceau de papier le nom du prochain caissier que vous pensez voir licencié. Marquez la date, l'heure et votre nom. Mettez-le dans une enveloppe et confiez-la au manager. » Voilà comment marche le jeu ensuite, continue la note de ce patron. « Nous allons doubler le nombre de vos faux clients. » Votre magasin sera contrôlé le jour ou la nuit, plusieurs fois par semaine. Les faux clients guetteront les caissiers qui portent un chapeau, parlent au téléphone, ne portent pas la chemise avec la marque de nos épiceries, traînent autour ou derrière le guichet, ou encore si les voitures personnelles sont garées près des pompes à essence après 7 heures du soir. Voilà le genre de choses que guetteront les faux clients. Si vous avez trouvé le bon nom, vous gagnerez ainsi 10$. Seulement un gagnant par licenciement, à moins qu'il n'y ait plusieurs bonnes réponses à la même date et à la même heure. Une fois que nous aurons licencié cette personne, nous ouvrirons toutes les enveloppes, remettrons la récompense et commencerons un nouveau jeu. Et ce n'est pas la peine de marquer le nom de Mike Miller, ajoute le patron pour blaguer. Il a été licencié à 11h30 aujourd'hui pour avoir porté un chapeau et parlé au téléphone. Bonne chance, conclut la note. L'histoire, qu'on peine à croire, s'est tout de même rapidement finie au tribunal. Très vite, une salariée a porté plainte contre ce patron, surnommé le patron venu de l'enfer, et gagné son procès, évidemment. Les agissements de l'employeur ont clairement créé un environnement de travail hostile, intolérable et nuisible, a tranché la juge. Heureusement, une telle chose ne se serait jamais passée en France. Nous en sommes loin et les deux histoires de licenciement que nous vous proposons aujourd'hui sont vraiment petits bras au regard de celle-ci. Mais elles ont une spéciale French touch dont les auditeurs pourront hélas juger en les écoutant jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, deux récits de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Henri, j'ai 34 ans. Je travaille dans l'automobile depuis 12 ans. Je fais des crash tests sur ordinateur de manière à améliorer le comportement des véhicules et réduire les blessures aux occupants des véhicules. Je travaillais essentiellement pour Renault, toujours dans le même domaine. Et donc là, je travaillais depuis 4 ans à peu près dans la même boîte, Eurodécision, qui me louait à Renault. Et en mars dernier, je vais voir le film « Merci patron ». Film dont j'ai entendu parler parce que je suis abonné de longue date au journal Fakir, qui est un journal indépendant, et à la suite de ce film, en fait, comme ils avaient besoin de beaucoup de bénévoles pour essayer de faire connaître Fakir, je me suis engagé avec eux en tant que bénévole. Ce qui m'a marqué dans le film, c'est ce couple qui étaient au RSA suite à leur licenciement par un grand groupe, donc un groupe qui appartient à Bernard Arnault. Cette fois, on mettait un visage en fait sur la misère et sur la misère engendrée par les délocalisations et donc des gens qui sont au chômage en très longue durée et qui ne retrouvent pas de boulot dans une région sinistrée comme il y en a de plus en plus en fait.
Mais est-ce que vous avez vraiment cherché du travail?
Ah oui, hein. On peut vous montrer les lettres qu'on a. Hein.
Nous avons le regret de vous annoncer que nous ne pouvons donner une suite favorable à votre demande d'emploi au sein de la commune de Louvigny-Quesnoy, L'ensemble des postes étant pourvus actuellement, cependant, nous gardons en réserve votre candidature. Bon, il y a encore un espoir, alors.
Un espoir
de tout ça.
Donc ça fait 4 ans que vous envoyez des courriers comme ça, toutes les semaines.
Ben, je roule.
En roue.
Quand je peux rouler, quand j'ai de l'essence, je roule. Quand je ne peux pas rouler, je ne roule pas.
Ça veut dire quoi? L'essence, il y en a toujours à la pompe à essence.
Oui, mais j'ai pas tout pour faire plein.
Il faut avoir les moyens de se remplir de l'essence.
Il faut que je mets 5 euros d'essence, ou je peux mettre 10, j'en mets 10, c'est tout, je peux pas aller plus. 5 euros, on fait pas beaucoup de kilomètres.
On n'a pas de chauffage, hein. D'habitude on a du mazout, tout ça, non, on saurait pas. On en doit encore du mazout.
Mais je vis qu'une pièce.
On vit qu'une pièce.
Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois?
On mange pas.
Mange pas.
Pardon?
On mange pas. On a fait Noël avec une tartine de fromage blanc.
Bah oui, je le coche pas.
J'ai jamais vu la mer.
J'ai toujours travaillé.
On avait promis.
J'ai jamais parti en vacances.
On devait aller à Péronne, on avait promis qu'on n'a jamais parti.
À Péronne? Ça, c'est des vacances.
Bah, c'est une journée de passé, quoi, pour changer ses idées.
Donc, j'étais conscient de plein de choses, mais en fait, je faisais rien d'autre que de regarder les produits que j'achetais, d'où ils venaient, et de faire au mieux pour ne pas inciter à la délocalisation, quoi. J'essayais pas forcément d'acheter français, parce que des fois c'est impossible, mais au moins d'acheter dans l'Union Européenne ou dans des pays avec un niveau de vie proche du nôtre, quoi. C'était ma seule action, en fait. Un soir, en rentrant chez moi, je me suis dit, ben, ce serait pas mal de faire des projections débat du film. Sur cette idée, je me suis dit, je vais envoyer un mail aux organisations syndicales chez Renault, qui est un gros groupe. Donc du coup, les syndicats, ils ont accès quand même à beaucoup de gens. Donc c'est plus intéressant que d'aller me rapprocher du monde syndical de mon entreprise, qui est inexistant. Du coup, je récupère les adresses de contact de différents syndicats, donc soit sur des prospectus qui traînent encore par-ci, par-là, soit sur le site intranet de Renault, où il y a une page de contact des différents syndicats. Donc dans ce mail, je les informais déjà du film Merci Patron, que je trouvais intéressant, pour amener à la discussion sur les conditions de travail, sur les délocalisations qui sont présentes chez Renault aussi. Et aussi, je les informais de la première nuit debout, qui s'appelait la Nuit Rouge à l'époque, sur la place de la République, suite à une journée de grève nationale. Voilà, j'envoie ce mail un mardi soir, il me semble. Donc chez moi, sur mon temps personnel, sur mon ordi personnel. Le lendemain matin, au travail, grande surprise, au bout d'une demi-heure, une heure de travail, je reçois un coup de fil de mon PDG, qui me dit « Henri, je dois te voir là, rapidement, dès que possible, il faut qu'on discute d'un mail que tu as envoyé, que j'ai sous les yeux. » Quelqu'un chez Renault, une responsable des prestataires, m'a dit qu'elle n'était pas du tout contente et que je devais analyser ce que tu avais envoyé, ce que tu avais fait, si c'était une erreur ou pas. Et donc je dois te voir et tu prends tes affaires, tu dois quitter le site immédiatement. Sur le coup, je sais pas trop, je me dis que c'est le temps que les choses s'éclaircissent, qu'ils se rendent compte que c'est rien ce que j'ai fait, que j'ai tout à fait le droit. Je dis à mes collègues que voilà, on se revoit, je sais pas, la semaine prochaine. Et puis en fait, en les quittant, en rigolant, je leur dis c'était sympa de travailler avec vous, quoi. Et en fait, c'est la dernière fois que j'ai vu mes collègues au travail. Donc je suis convoqué chez mon PDG, donc c'est rare qu'on se fasse convoquer comme ça dans cette boîte, donc je me dis que c'est pas très bon signe. S'entretenir avec son PDG, c'est jamais anodin. Je sais pas où je suis tombé, je comprends pas. Je m'étonne que le mail que j'ai envoyé ait fini sur la boîte mail de mon PDG, parce que c'est un mail personnel en fait. Je prends avec moi mon dictaphone histoire de garder une trace de ce qui se dit. Et donc, je me présente à lui, aux trois quarts d'heure de « t'as fait une bêtise », t'aurais jamais dû contacter les syndicats, un discours comme ça, très paternaliste. C'était très étrange en fait. Il me disait, moi je trouve ça très bien que tu milites en dehors du temps de travail et tout ça. Et puis au bout de trois quarts d'heure, on me dit, bon bah Henri, je te mets à pied. Ça veut dire pas le droit de se présenter au travail, a priori pas payé. C'est vraiment, je te mets de côté, on regarde ce que t'as fait et on va voir ce qui va en sortir. Sachant que on me dit aussi, j'envisage d'aller jusqu'au licenciement. Il me dit que bon, s'il me licencie, il ira voir auprès d'un client, s'il peut m'embaucher, qu'il a déjà des trucs en tête, voilà, donc il a déjà réfléchi à la chose en fait. Donc on se quitte là-dessus, je lui fournis... mon badge d'accès à chez Renault, vu que je n'ai plus le droit d'y accéder. Et voilà, c'est la fin de ma présence dans l'entreprise.
Bonjour, ça va ?
Ça va.
Alors, je leur ai lu le protocole. Je vous donne un exemplaire pour que vous lisiez. Et ça serait bien que vous signiez et mettiez les formules à la place de votre maman. Là. Si quelqu'un vous posait une question, vous disiez, tiens, comment ça se fait, ça va mieux ? Laissez-les croire que vous avez gagné un petit coup de moto.
Ouais.
Hein, vous en pensez ? Vous avez la chance que ça se passe comme ça, oui. Mais pour les autres, c'est terminé. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, mais non, ils ne peuvent pas s'amuser à aller donner 40 000 euros à tous les gens qui ont été licenciés dans des groupes. Donc à un moment donné, il est actionnaire. Avoir en plus des pauvres gens qui n'arrivent plus à vivre, qui vont être obligés de vendre leur maison. Il a bien senti aussi que ça pouvait peut-être faire pleurer dans les chaumières, vous voyez ce que je veux dire.
Dans l'après-midi, je contacte Fakir et ça remonte très vite à François Ruffin, le rédacteur en chef de Fakir, qui m'appelle dans la foulée, qui est consterné, qui est désolé de ce qui m'arrive, parce que forcément il se sent responsable. Il fait un petit interview qu'il diffuse sur le site de Fakir, sur YouTube. Et donc dans cette interview, on me voit de manière relativement anonyme, on voit juste mon prénom, il n'y a pas de mention faite ni du nom de mon PDG, ni du nom de la boîte. Et il a pris l'initiative de diffuser 2-3 phrases prononcées par mon PDG. J'ai fait une grosse bêtise, j'ai pas le droit de contacter les syndicats, et ton mail, je sais pas comment il est arrivé chez moi, peut-être que Renault espionne les mails des syndicats. Si on se rappelle bien, j'ai envoyé le mail à des contacts syndicaux, donc c'est donc un représentant syndical qui fait la délation, quoi. Imaginez que j'aille auprès de lui pour lui dire que j'avais des problèmes avec mon patron. Il aurait fait quoi ? Il aurait envoyé le mail à mon patron pour lui dire « Regardez, celui-là, il se plaint. » C'est quand même super grave, je trouve. Donc voilà, cette vidéo est diffusée. J'ai mon entretien officiel. Et donc, pendant cet entretien, ils me disent que, OK, ils vont voir ce qu'ils vont faire là-dessus, mais qu'ils ont déjà en tête une deuxième procédure, pareil, mise à pied, pour le fait d'avoir diffusé 2 phrases de mon PDG sur YouTube. Donc, la première mise à pied finira par un avertissement, mais cette deuxième mise à pied finira par un licenciement pour faute grave, et pour le motif de manque de loyauté envers ma société. Il ne me licencie pas pour le mail parce qu'il se doute bien que c'est complètement loufoque et ça se passera jamais au regard de la loi. Donc ils saisissent un truc qui leur paraît un peu plus sérieux, un peu plus condamnable peut-être juridiquement, qui est la diffusion de quelques phrases anonymisées de mon PDG. On se retrouve là 6 mois après. Je décide d'attaquer au prud'homme. Les juges ont reconnu que mon PDG savait licencier dans les règles, mais ils n'ont pas reconnu qu'il avait le droit de me licencier. Et ils n'ont pas reconnu qu'ils n'avaient pas le droit non plus, quoi. Donc ils ne se prononcent pas sur le fond de l'affaire. On peut dire qu'on a perdu. Deux possibilités s'offrent à moi, enfin trois en fait. Soit je laisse couler, donc je baisse les bras. Soit on fait appel en référé de la décision, soit on arrête le référé, on va au jugement sur le fond de l'affaire. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui, on n'a pas décidé avec mon avocate de ce qu'on allait faire. Se termine ainsi, on va dire, ma carrière dans l'automobile, parce que bon, le fait d'avoir contrarié Renault, on se doute bien que c'est pas très bon pour le petit Pékin que j'étais, quoi. Donc là, j'ai un peu saisi l'occasion d'être cramé dans l'automobile pour bifurquer. Et je vais m'orienter dans les énergies renouvelables, prendre de nouvelles choses et de voir un milieu que je ne connais pas. Et on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, hein, donc, donc voilà, on va voir.
Je m'appelle Gefa Raja, j'ai 51 ans. Je suis rentrée en France le 6 juin 2001. J'ai travaillé à la gare, au buffet de la gare. Je fais la plonge. Et après, en 2009, j'ai commencé le nettoyage des trains. J'avais un CDI avec eux. Nous, on ne fait pas les TGV, on fait juste les rames corail, les bombardiers, les petits trains. D'abord, quand on rentre dans le train, on y vide tous les poubelles. Après, on balaye s'il faut balayer. Et après, on nettoie les WC. Et des fois, il y a 3 WC ou 4 WC. Des fois, il y a 6 WC. Il y a des trains, il faut mettre de l'eau. Et des fois, ils gardent le train, par exemple, à voie 7. Et nous, on tire le tuyau de loin pour aller faire le plein d'eau. Et c'est un peu dur, quoi. Ça fait mal au dos, mais on le fait quand même. Et après, on nettoie s'il y a des traces des doigts dans les vitres. Et après, on nettoie les poignées portes. Et après, quand on finit, on sort le drapeau et après, on appelle le chef d'escale. Quand on veut faire un train, par exemple, à la voie 4, on ne peut pas accéder au train sans la permission du bureau de chef d'escale. C'est eux qui nous autorisent de monter dans le train. Des fois, ça prend 10 minutes, 5 minutes. Des fois, ça prend 30 minutes, 20 minutes. Des fois, 45 minutes. Et c'est comme ça. À chaque train, on fait comme ça. Plusieurs fois, j'ai déjà parlé de ça, qu'on peut travailler en doublette comme ça. Au moins, on va être deux. On ne court pas, il n'y a pas la pression, il n'y a pas le stress. Le responsable, il ne veut rien savoir. Le directeur, pareil. Eh bien, non. J'essaye de tous les jours pour faire tous mes trains, qu'il n'y a pas de train qui part non fait. Voilà. C'était au mois de novembre, un jour j'avais trop de trains à faire, 12 ou plus que ça. J'ai fini dans le train et je voulais aller faire l'autre avant qu'il parte, quoi, parce qu'il faut que je fasse tous les trains, il ne faut pas qu'il parte, n'en fait quoi. Et il fallait qu'on traverse le souterrain. Avec le seau, avec le balai, on traverse les voies avec. Et ce jour-là, moi, je voulais faire vite, et voilà, j'ai traversé, je ne me suis pas rendu compte, c'est après. Ils ont annoncé le TGV qui va arriver, et moi, j'étais déjà traversée, Et là, avec le soleil, l'après-midi, je n'ai pas vu la lumière rouge allumée, j'ai traversé. Et il y a un gars de la SNCF qui m'a vu, il a signalé ça au chef d'escale. Je me suis rendu compte ce que j'ai fait, c'est pas bien. Il fallait pas que je traverse, il fallait pas que je passe par là. Et je me suis dit, je me suis excusée au chef d'escale. Je lui dis, il m'a dit oui, d'accord. Et la prochaine fois, je dis oui, je l'ai fait parce que j'étais pressée. Je voulais faire vite pour que je gagne de temps. Je croyais que je vais être engueulée par le patron ou mise à pied ou parce que j'ai jamais des avertissements. Et c'est ma première faute que j'ai faite, et voilà. J'avais un entretien avec le patron, Serge Lopé. Il m'a dit, oui, on est en courant que vous êtes traversé. Et ça, j'ai dit, oui, je l'ai fait, mais je reconnais l'erreur que j'ai faite, mais je ne le ferai plus. Il m'a dit, je vais réfléchir pendant 3 jours et je vais vous répondre. Et après, j'ai continué à travailler pendant 10 jours. Moi, mon boulot, j'ai toujours aimé mon travail. Je l'ai toujours fait parce que j'ai pas fait beaucoup d'études, rien. J'étais jusqu'au brevet, c'est tout. Au Maroc, ils ne laissent pas le choix. Et mon père m'a fait... Il y a un cousin qui est venu me demander ma main et il m'a fait marier avec lui. C'est un mariage forcé, quoi. J'étais divorcée et après j'avais des enfants. Et après, au Maroc, on a moins de travail. Et c'est pour ça que je suis rentrée ici, pour gagner ma vie, pour que mes enfants, quand ils sont grands, ils aient un travail au moins. Parce que là-bas, en Afrique, on a moins de travail, on a moins de... C'est pour ça. Et un dimanche matin, parce que moi je travaille le dimanche matin, je suis présentée au poste, je vois le collègue qu'elle est là. Je lui demandais qu'est-ce que vous faites là. Il m'a dit, je viens faire votre travail. J'ai appelé tout de suite le responsable. Je lui ai dit, voilà, je suis au chantier. Il y a le collègue qui est là, qui veut faire mon travail. J'ai rien compris. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Il m'a dit, oui, vous êtes licencié. Et bien là, j'étais surpris. C'était un choc pour moi. Et j'étais même pas en courant, rien. J'ai dit, mais comment ça? Je suis licenciée, je suis pas avertie, rien. Le responsable m'a dit, écoutez, nous on a envoyé un courrier avec accusé de réception. Je lui ai dit, écoutez, moi j'ai rien reçu parce que moi le week-end, le vendredi, samedi, je travaille pas, j'étais en week-end. C'est samedi soir que je suis rentrée, j'ai trouvé dans la boîte à lettres un recommandé. Je me suis dit, je vais aller le chercher pour voir ce que c'est. Et c'est l'après-midi que j'avais le courrier comme quoi j'étais licenciée. Moi, je ne m'entendais pas à ça. Je m'entendais à mise à pied à 3 jours ou un avertissement ou même à mise à pied d'un mois, mais pas licenciement, quoi. Et je ne me suis jamais absentée. J'étais tout le temps présente au travail. Je fais mon travail correctement. Même le contrôle, quand il passe, il vient de Bordeaux et il passe pour contrôler. Et plusieurs fois, il m'a dit, je suis contente de vous. Avec vous, je n'ai pas de problème. 2 fois dans l'année, j'avais des chèques de félicitations, ils nous félicitent parce que je ne m'absente pas. Il y a moi, le collègue, c'est pas qu'à moi. Et ils nous encouragent. Heureusement, il y a des gens comme nous qui font ça. Hein. Est-ce qu'il n'y en a pas hein? Et voilà comment il m'a remercié. Et il m'a fait un cadeau de Noël. C'était le 17 décembre, j'étais licenciée. C'est ça son cadeau de Noël qu'il m'a fait. Hein. Depuis licenciement, j'ai perdu presque 10 kilos. Je ne sortais même pas en ville, j'étais enfermée chez moi. Je pensais même retourner au Maroc, rentrer chez moi. Comment je vais vivre la vie ici? Comment? L'RMI, je vais toucher 450 euros de l'RMI. Qu'est-ce que je vais faire avec le RSA? Non. J'arrive pas à accepter, j'arrive pas à croire que je suis licenciée. J'ai appelé un ami à moi, il m'a dit, je lui ai dit voilà ce qui m'est arrivé. Il travaille à la gare de la SNCF. Il m'a dit, je vais vous donner un numéro d'un syndicat. Et c'est grâce à eux que je revis maintenant. On est passé devant le juge. Le patron, il a accepté de me proposer un autre travail et un nouveau contrat. C'est où il y a les grandes surfaces, où il y a les grands magasins, boulangers, et les restos là-bas et tout ça. J'ai deux parkings à faire. Je commence par ramasser les poubelles, toutes les poubelles de parking. Je ramasse tous les papiers qui sont par terre au parking, les canettes qui sont par terre, et les mégots. Et il y a un WC aussi public que je fais. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai un travail, oui, mais j'ai perdu 300 euros de salaire. J'ai perdu l'ancienneté. Avec l'ancien contrat, j'avais le 13e mois, j'avais les primes de vacances, j'avais tout. Mais maintenant, j'ai plus rien. J'ai rien, j'ai juste le salaire. J'ai perdu tout. Ce mois-ci, j'ai touché que 1200 parce qu'ils ne m'ont pas payé un jour férié. Ils m'ont dit que je n'ai pas encore 3 mois d'ancienneté. J'ai rigolé parce que je sais que j'avais 15 ans que j'étais avec eux. Depuis la licenciement, je n'ai jamais sorti, moi. Je ne sors pas. Il y avait le solde, je ne l'ai pas fait. Jamais été chez coiffeur, rien du tout. Hein. Parce que j'ai un loyer de 657 euros par mois. J'ai un CRI de 300 euros, ça fait 1000. Les 200 euros, je paye l'électricité et le gaz avec. Il ne me reste plus rien pour vivre. Là, je fais quelques heures le soir, je ramène les enfants de l'école. Sinon, je ne m'en sors pas. Jusqu'à maintenant, je préfère un jour que je retrouve mon travail à la gare. Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais faire que ça. Tore down. We made some noise. Yeah, we stood our ground. We ran streets. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, deux cas de licenciement. Un reportage de Valérie Borst, réalisé par Alexandra Malka. Merci à Radja et Geffard, à Henri, à Thomas Porte et à Francine Aizikovici. Le film Merci Patron, dont nous avons diffusé des extraits, est disponible en DVD. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nul ne l'ignore. N'hésitez pas à poster des commentaires, à partager nos émissions sur les fameux réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à notre podcast, ce qui vous permettra de nous écouter où vous voulez, quand vous voulez et sur le support que vous souhaitez.